On part pour Jérusalem, où l'on retrouve Richard Darmon. Bonsoir Richard.
Bonsoir, shalom.
Shalom, ouvracha. Vous êtes journaliste et auteur, écrivain. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la géopolitique, notamment la géopolitique d'Israël. Et moi, je voulais savoir, comment on fait pour Israël quand on est face à un gouvernement hostile? Alors, ça ne sera pas celui du Rassemblement National, apparemment, mais si, par exemple, c'est LFI, comment ça se passe? On ne se parle plus, on est entre adultes, donc on est bien obligé de se parler.
Théoriquement, on est entre diplomates et entre adultes, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, je voudrais juste, pour introduire mon propos, vous rappeler que les relations entre la France et Israël, depuis la renaissance de l'État d'Israël en 1948, ont connu, une vie en dents de scie, avec des hauts et des bas. Très rapidement, il y a eu la période la plus dure, c'était l'embargo de Gaulle après la guerre de 67, qui a été quand même une période très difficile. Et puis, il y a eu aussi l'incident Chirac en 96, quand Chirac a piqué une crise en vieille ville parce qu'il supportait pas le service d'ordre qu'il protégeait, le service d'ordre israélien. Bon, donc on a connu, comme diraient les Israéliens, enfin, il y a un proverbe qui dit que quand on est face à une difficulté, on cite une phrase en hébreu qui dit la chose suivante, que je vais traduire rapidement, « Avarnu gvar et paro », on a déjà surmonté le pharaon égyptien, alors j'allais vous dire que Macron, Mélenchon, etc., c'est pas trop dur. Maintenant, concrètement, c'est vrai que on risque d'avoir de faire face à des choses inattendues. D'ailleurs, Macron lui-même est un président inattendu. Décision de mettre Israël en dehors l'exposition Eurosatoris, quand même, c'est sa décision.
On était déjà hostile. On était déjà dans l'hostile.
Alors, attendez, maintenant, ça, c'est le côté inquiétant. Maintenant, son côté des contre-feux, si vous voulez, puisque c'était votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il y a peut-être que la France peut pas tout de même avoir une attitude spécifique, je pense, aussi hostile que celle de l'Espagne. Bon, l'Espagne a dû prendre cette décision de reconnaître l'État palestinien pour des raisons de cuisine intérieure. Alors c'est vrai que ça ressemble à ce qui risque de se passer en France, mais il y a quand même le contrepoids, j'allais dire, de l'Union européenne, où déjà la position d'Israël depuis les dernières élections est moins mauvaise que ce qu'était avant. Et puis il y a aussi l'exemple proche pour Paris de ce qui se passe ces jours-ci à Londres, où le nouveau ministre travailliste, pourtant travailliste, Keir Starmer, et son ministre des Affaires étrangères ont eu des propos très modérés, très équilibrés par rapport à Israël. Et donc la France aurait tort de regarder plutôt vers Madrid que
vers Londres. Elle ne peut pas faire cavalier seul, c'est ça que vous nous dites.
Oui, cavalier seul. Et puis si vous voulez... Il y a quand même d'autres éléments. Je me rappelle mes leçons de droit constitutionnel pour la Ve République. C'est tout de même le président de la République qui mène la politique étrangère, même si Quai d'Orsay a son mot à dire. D'ailleurs, Quai d'Orsay a chanté la même musique depuis 67, depuis l'époque de Gaulle. Mais donc, c'est le président qui mène les affaires en ce qui concerne la politique étrangère.
Le pouvoir régalien, c'est ce qu'on appelle le pouvoir régalien.
Voilà.
Ça, on se souvient, Mitterrand disait « je vous donne tout », mais ça, non. Je m'excuse, c'est
oui,
à moi.
C'est
la défense aussi.
Oui, et je crois qu'il y a quand même un indice intéressant, c'est qu'au même moment, enfin un petit peu avant qu'il ne décide d'exclure Israël de l'exposition Eurosatory, qui est quand même une grosse décision et qui emporte beaucoup de conséquences, le président français, Macron, est intervenu fin avril, je crois que le 22-24 avril, une dizaine de jours après l'attaque iranienne au missile, qui était quand même pas un petit événement, ça aurait pu mal tourner, dans un colloque à la Sorbonne sur les perspectives d'armement de la France et d'Europe, et il a eu cette phrase, il pourrait toujours la contredire, mais il a eu cette phrase quand même historique, on ne va pas le relever parce que tout va tellement vite. Il a dit ceci, il dit que l'Iran est désormais une menace, l'Iran et son potentiel nucléaire et son potentiel de missiles constituent une menace pour la France et l'Europe. Alors, comprenez, on peut pas non plus passer d'un extrême à l'autre, mais le fait est que le président a dit ça dans un colloque, près d'Opt, etc., et ça fait partie de ses préoccupations, donc il pourra pas tolérer que Israël soit rabroué à 100%. Maintenant, si c'était le cas, et qu'il y ait, tout est tellement surprenant dans la vie publique, aussi bien au Moyen-Orient que maintenant en Europe et en France, on peut s'attendre à tout. Mais je ne vois pas peut-être une petite brouille ou des tensions, mais je ne vois pas un ombrage et je dirais une crise difficile que celle de l'embargo avec De Gaulle.
Par exemple les Brésiliens ou les Irlandais. Donc vous ne voyez pas ça. Mais une question sur l'État palestinien. L'État palestinien, est-ce que le Premier ministre peut décider ou tout seul ou non?
Le prochain Premier ministre français, est-ce qu'il peut décider de reconnaître
l'État palestinien?
Oui, eh ben écoutez, ça dépend de qui est le Premier ministre, mais dans la conjecture que je vois et que on pressent, alors évidemment, ce serait quand même étonnant que on voit mal Macron appeler Mélenchon comme Premier ministre, ça ferait quand même beaucoup de remous et ça déstabiliserait plus la France qu'Israël, d'après moi.
Richard, comment vous voyez les choses ce sera ma dernière question d'Israël. Vous voyez avec un peu de recul en disant finalement, évidemment, quand on est sur place, par exemple, les manifestations d'hier soir, place de la République, sont très loin d'être sympathiques. Mais vous, à Jérusalem, vous voyez ça avec autant de préoccupations que les Juifs en France ou avec un petit peu plus de recul en disant la gauche a gagné, c'est pas la première fois qu'elle gagne, donc on verra demain.
Il y a du pour et du contre. D'une part, faut savoir que la perception de ce qui se passe en France s'inscrit dans le contexte plus large de tout ce mouvement anti-judaïque, anti-sioniste et antisémite qu'on a vu se déployer après le 7 octobre. Et donc, finalement, c'est un épisode supplémentaire, mais qui quand même concerne pas mal. Il y a une certaine préoccupation en Israël par rapport justement aux Juifs de France. Je crois que quelle que soit la formule que choisira Macron pour essayer de gouverner une France ingouvernable, il y aura, si vous voulez, en perspective, une nouvelle équation sociopolitique pour les Juifs de France. C'est un euphémisme parce que ce qui ne veut pas dire que forcément beaucoup vont venir en Israël. Et lorsqu'il y a eu dans les années 2020, lors des précédentes opérations de Sahel, il y a eu aussi des secousses en France, même avant 2020. Il y a pas mal de jeunes juifs qui ont décidé d'aller s'établir dans d'autres pays, comme l'Australie, justement la Grande-Bretagne ou les États-Unis. C'est pas simplement de manière intéressée qu'en Israël, on regarde la crise qui se noue en France, mais il est vrai que dans pas mal de foyers juifs, il y a des questions aiguës qui se posent. Écoutez, moi j'ai toujours dit que lorsqu'il m'est arrivé de faire après les attentats du Bataclan du
Père Kasher.
Par hasard, j'avais planifié une tournée de conférences avec l'organisation sioniste mondiale en France. Je suis arrivé 10 jours après les Pères Kachers. Et donc, j'étais dans les petites banlieues pour vous parler non pas d'Alia, mais pour parler de l'avenir des Juifs de France. Et ce que je disais, et je crois que ce qui est en jeu pour certaines familles, il y a quand même une chose qu'il faut se poser, la vraie question, c'est celle-là. C'est pas si on est sioniste ou non, et si on aime ou pas Israël, et s'il y a des bonnes écoles ici ou ailleurs. La vraie question, quand on pense à l'avenir de sa famille et de ses enfants, c'est de savoir où est-ce, et c'était la formule que j'avais un peu créée à l'époque. Je dis, il faut qu'il y ait des brainstorming dans les familles, tout ça, parce qu'il y a tout le monde est soucieux. Il faut se poser la question suivante. Où et comment, en tant que parents, hommes et femmes, qui élevons des enfants, quel que soit leur âge, où et quand on a envie de planter notre arbre généalogique sur quelle terre, dans quel terreau on a envie de planter notre arbre généalogique, non pas pour nos enfants, mais pour après. Où est-ce qu'on pense qu'il y a le terreau le plus fertile, le plus propice pour l'avenir de notre famille, l'avenir de nos générations. Je crois que c'est la question de fond, au-delà de qui sera Premier ministre, mais cette question, ça fait des années que les Juifs de France se la posent, mais là, évidemment, elle va se poser avec plus d'acuité.
Richard Darmon à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous.
À bientôt.